We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Chronique enregistrée de manière un peu particulière en raison des contraintes qui nous sont imposées en ce moment, et donc enregistrée à mon cabinet, rue Bayard. Toutes mes excuses si le son n'est pas le même que d'habitude, même si je ne doute pas que notre ingénieur du son, Yanis, aura fait des merveilles. Quittons le cinéma et repartons vers le droit cette semaine pour à nouveau un petit jeu, ce petit jeu qui vous plaît bien, en tout cas je l'espère, le 4 à la suite.
Ah oui, 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 oui.
Et donc un 4 à la suite en droit du travail. Je rêve, j'attends un vrai jeu dans le studio avec mes camarades du patchwork et des vrais buzzers dans le studio. Ce serait magique si notre président adoré nous écoute. Voilà, le message est passé. Alors attention, c'est parti. Main sur les buzzers, justement. Première question, cette saison. Ai-je le droit de sanctionner un salarié qui ne veut pas porter le masque dans l'entreprise ? En tant qu'employeur, vous avez une obligation générale de sécurité à l'égard de vos salariés. Vous devez donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation de moyens adaptés. Et vos salariés ont également des obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique dans les espaces partagés et clos, salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires. Il doit également être porté par les travailleurs en extérieur en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'un mètre entre les personnes. L'obligation du port du masque s'applique également dans les véhicules. Les salariés travaillant seuls dans un bureau nominatif n'ont pas à porter le masque dès lors qu'ils s'y trouvent seuls. Alors oui, un salarié qui ne porte pas le masque peut être sanctionné. Mais attention, il faut pour ça que les dispositions relatives à l'obligation et les circonstances du port du masque soient insérées dans le règlement intérieur ou dans une note de service si votre entreprise ne dispose pas d'un règlement intérieur. Il faut préciser les conditions dans lesquelles l'obligation est appliquée selon les recommandations du protocole sanitaire. Et il est important de détailler les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l'obligation du port du masque. Deuxième question, ai-je le droit de demander au salarié de venir chercher son solde de tout compte ? Alors quel que soit le mode de rupture, démission, rupture conventionnelle, licenciement, fin de CDD, il faut établir et remettre un solde de tout compte au salarié qui quitte définitivement l'entreprise. C'est une obligation. Le reçu pour solde de tout compte est un document écrit dans lequel vous faites l'inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture, fin du contrat de travail. On conseille de détailler tous les éléments de rémunération qui sont versés, salaire, prime, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de rupture, paiement des heures supplémentaires, etc. Seules les sommes liées à l'exécution du contrat et à sa rupture, qui sont indiquées sur le solde de tout compte, entreront dans le champ de l'effet libératoire. Et oui, vous pouvez demander à votre salarié de venir chercher le dit reçu. Comme on dit quand on parle bien, ce document est seulement quérable, il n'est pas portable, c'est-à-dire que vous avez l'obligation d'informer le salarié que son reçu pour solde de tout compte est à sa disposition et est prêt, mais vous n'avez pas l'obligation de lui faire parvenir à son domicile par lettre, par exemple. Ça paraît très anecdotique comme question, mais croyez-moi que dans la pratique en droit du travail, c'est quelque chose qui se pose très très souvent dans le cadre de la rupture, lorsque ni l'une ni l'autre des parties n'a envie de revoir l'autre après la rupture du contrat de travail. Troisième question, ai-je le droit de supprimer la majoration des heures supplémentaires ? La loi édicte que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. C'est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il vous est impossible, notamment via un accord collectif, de déroger à cette règle. Donc non, vous ne pouvez pas supprimer la majoration de la rémunération des heures supplémentaires. Vous avez toutefois la possibilité de négocier ce taux de majoration sans qu'il puisse être inférieur à 10%. concernant la rémunération des heures supplémentaires, les accords d'entreprise priment sur les accords de branche. Ainsi, un accord d'entreprise peut prévoir une majoration des heures supplémentaires inférieure à ce qui est prévu par l'accord de branche. Sachez par exemple qu'un accord de performance collective peut réduire le taux de majoration des heures supplémentaires, mais dans le respect de la limite basse de 10%. Si aucun accord collectif en vigueur dans l'entreprise ne fixe les taux de la majoration des heures supplémentaires, on applique les dispositions supplétives de la loi, dispositions applicables en l'absence d'accord. Dans ce cas, la majoration est de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, 50% pour les suivantes. Quatrième et dernière question de ce cadre à la suite, ai-je le droit de mettre en place une vidéosurveillance dans la salle de repos de mon entreprise? Alors, règle de base, la vidéosurveillance doit correspondre à un besoin précis, par exemple dans les banques ou les supermarchés en vue de prévenir les vols. Vous ne pouvez donc mettre en place un système de vidéosurveillance dans l'entreprise que s'il y a un risque réel de vol ou d'agression ou s'il s'agit de surveiller un poste dangereux. Sans un tel objectif considéré comme légal et légitime, vous ne pouvez pas installer de caméra de surveillance. Ainsi, sauf circonstances particulières, sécurité par exemple, vous ne pouvez pas filmer les salariés sur leur poste de travail. Un tel dispositif de surveillance est légal pour contrôler et surveiller l'activité des salariés pendant leur temps de travail, à condition que ces derniers soient informés préalablement. L'obligation d'information préalable des salariés est requise si le support utilisé constitue un procédé de surveillance permettant le contrôle de l'activité des salariés et ou de leur usage des outils mis à leur disposition, par exemple téléphone ou ordinateur. Donc non, vous ne pouvez pas installer des caméras de surveillance uniquement pour contrôler les faits et gestes de vos salariés dans une salle de repos. Et si vous décidez de mettre en permanence votre personnel sous vidéosurveillance sans motif valable, vous abuserez de votre pouvoir de direction et vous serez sanctionné, car les salariés ont droit au respect de leur vie privée. Et vous avez notamment la CNIL qui veille à ce que ces règles particulières soient respectées lors de la mise en place de vidéosurveillance. Et voilà, chers amis et chers auditeurs, c'est la fin de notre 4 à la suite du jour. Peut-être avez-vous joué et même gagné, peut-être une séance de rattrapage s'impose-t-elle. L'avantage, c'est qu'avec Esprit Occitanie, on peut jouer et rejouer, puisque si vous nous avez raté aujourd'hui, vous pouvez nous réécouter ce soir à 23h et aussi demain, mercredi matin à 10h, et bien sûr, nous retrouver à la demande dans la très belle et très riche bibliothèque de podcasts sur www.espritoccitanie.fr. N'hésitez pas à commenter ou questionner cette émission sur la page Facebook d'Esprit Occitanie. J'aurai grand plaisir à lire vos commentaires et y répondre. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, toujours confinée, mais toujours fidèle au poste pour réaliser les chroniques de Maître Marie. À bientôt. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans la Casa des Ebel. En ce 3 novembre 2020, nous fêtons un anniversaire, celui du premier être vivant mis en orbite autour de la Terre. En effet, il y a 63 ans, le 3 novembre 1957, la chienne Laïka se trouvait à bord de Spoutnik 2. Malheureusement pour elle, la petite aboyeuse, la traduction de Laïka, mourut d'hyperthermie environ 7 heures après le lancement de Spoutnik 2. Pour la suite de cette émission de la phase 2 du confinement, voici le programme que je vous ai concocté. Commençons par la réponse au quiz de la dernière émission. Je vous propose ensuite de partir en Chine pour découvrir le renard de feu. En effet, quoi de mieux en cette période compliquée que de rencontrer cet animal craquant? Nous ferons ensuite escale au Bhoutan, où je vous présenterai une création économique originale. Et je finirai, comme le veut la tradition, en vous proposant le nouveau quiz de la semaine. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de partir à la découverte de la célèbre pyramide de Khéops. Nous étions en excellente compagnie. En effet, Thalès en personne nous servait de guide. Il en profita même pour nous expliquer comment il trouva l'idée qui lui permit de mesurer la hauteur de cette pyramide. En fin d'émission, je vous interrogeais sur la hauteur de cette dernière. La réponse est multiple. En effet, la pyramide de Khéops mesure actuellement 138 mètres de haut. mais sa hauteur était de plus de 146 mètres au moment de sa construction. La pyramide de Khéops est restée pendant de nombreux siècles l'édifice humain le plus haut du monde et également le plus grand. Continuons dans les chiffres. La pyramide mesure 230 mètres et 50 cm de côté, ce qui fait une empreinte au sol de plus de 5 hectares. Il est à noter que les côtés n'ont pas exactement tous la même longueur. Il y a un écart de quelques centimètres entre eux. Si l'on prend l'unité de l'époque, la coudée, la pyramide mesurait donc 440 coudées de côté pour 280 coudées de haut. En effet, la coudée royale égyptienne mesurait entre 520 et 540 mm. Concernant le volume de la pyramide, il était initialement de 2 592 350 m3. Et sa surface, donc comme je vous l'ai dit, était de plus de 5 hectares. Ces deux chiffres ont diminué suite à l'érosion du sommet et des côtés de cette dernière. Partons maintenant pour l'Empire du Soleil Levant. Découvrir le renard de feu. Vous le connaissez certainement sous le nom de Pandarou. Cet attendrissant petit animal arbore une robe d'un roux flamboyant. Bien qu'il soit classé parmi les carnivores, il se nourrit principalement de bambous, comme son très lointain cousin bicolore. Cet habitant des forêts de montagne du sud de la Chine subit de plein fouet la déforestation outrancière. De plus, il vit très mal sa cohabitation forcée avec l'homme. Aujourd'hui, il est gravement menacé d'extinction. Le petit panda, appelé également panda éclatant, possède quelques traits de ressemblance avec le raton laveur. Son principal prédateur est la panthère des neiges. Et je ne vous parle que de son principal prédateur vivant dans le même habitat que lui. Car n'oublions pas que l'homme, avec un grand H, de par son action irresponsable, est coupable de sa quasi-disparition de son habitat naturel. Mais revenons à cette petite boule de poils craquante. Elle possède une tête ronde et imposante, surmontée de deux oreilles à l'extrémité pointue et flanquée de poils blancs. Sa fourrure brun-roux sur l'ensemble de son corps, de sa tête et sur une partie de sa queue est beaucoup plus sombre sur son ventre, sur ses pattes ainsi que sur l'extrémité de sa queue. Des petites taches blanches sont également visibles sur ses joues, au-dessus des yeux et sur son museau. Lorsque vous en verrez un, vous ne pourrez pas ne pas craquer. Mais au fait, où vit le pandarou? Historiquement, il était naturellement présent dans les forêts tempérées himalayennes, où il vit encore aujourd'hui. Il vit également dans les chaînes montagneuses du Népal, ainsi que dans certaines zones de la Chine, dans la région autonome du Tibet, au nord de la Birmanie, au Bhoutan et en Inde. Sur le territoire chinois, le pandarou a totalement disparu de nombreuses régions. Dans toutes les aires de répartition du pandarou, son habitat est menacé. La déforestation y est très importante. Le panda est également victime de braconnage ainsi que de maladies colportées par les chiens errants. L'espèce est classée en danger dans la liste rouge de l'UICN depuis 2008. En effet, sa population mondiale est estimée aujourd'hui à environ 10 000 individus. Le pandarou aura-t-il la chance de pouvoir continuer à vivre dans son milieu naturel ou sera-t-il obligé de vivre en captivité pour ne pas disparaître? Je crains que l'issue ne soit pas des plus heureuses pour ce superbe animal, comme pour de nombreuses autres espèces vivantes que l'homme s'emploie à éradiquer. Continuons notre escapade asiatique et arrêtons-nous quelques instants au Bhoutan. Le royaume du Bhoutan, dont la taille est comparable à celle de la Suisse, se situe à l'est de la chaîne himalayenne. Cet état est enclavé entre l'Inde au sud et la Chine au nord. C'est dans ce petit état qu'a été créé en 1972 un nouvel indice économique. Il s'agit du BNB, le bonheur national brut. Ce nouvel indice phare de l'économie bhoutanaise, créé sous l'impulsion de son roi Jimgé Singye Wangchuck, son intention initiale était de remplacer le PIB par le BNB, le bonheur national brut. Ce dernier devait permettre d'évaluer une économie basée sur les valeurs spirituelles du bouddhisme. La principale religion du pays, le bouddhisme Vajrayana, est même religion d'État. Le BNB est d'ailleurs utilisé lors de l'établissement des politiques économiques du pays du dragon tonnerre, autre nom, du Bhoutan. Si le PIB mesure l'accroissement de la richesse matérielle produite au sein d'une nation, le bonheur national brut essaye, quant à lui, d'évaluer la richesse en termes plus psychologiques et holistiques. Les principaux axes régissant le bonheur national brut sont la croissance et le développement économique, la conservation et la promotion de la culture, la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources, et enfin, la bonne gouvernance responsable. Comme vous pouvez le remarquer, la plupart de ces critères, au demeurant bien choisis, se révèlent extrêmement difficiles à quantifier. Et pourquoi ne pas avoir pris également en compte la santé de la population, ainsi que son niveau d'éducation? L'idée de départ est louable. Néanmoins, le Bhoutan n'est pas ce que l'on pourrait appeler le pays du bonheur pour tous. Malgré son entrée dans le livre des records en 2015 pour avoir planté 49 672 arbres en une heure, et son image de pays très environnementaliste, une grande partie de la population reste exclue de ce royaume perché dans l'Himalaya. En effet, de nombreux Népalais vivent dans des camps et ne sont absolument pas considérés par les autorités bhoutanaises. Pour preuve, leur parti politique est tout simplement interdit au Bhoutan. Ajoutez à cela que vous risquez la prison si vous êtes surpris en train de fumer, que les violences envers les femmes et les enfants sont monnaie courante, et vous comprendrez pourquoi de nombreuses voix s'élèvent pour railler le BNB. Le bonheur national brut serait même pour certains spécialistes du pays une véritable invention marketing. Mais rien n'empêche de partir de cette idée singulière et de tenter d'imaginer ce qu'elle pourrait donner comme résultat si elle était utilisée à bon escient. Et pour finir cette parenthèse confinée, je vous propose un quiz médical. Quel est pour vous l'os le plus petit du corps humain? Alors je vous donne un indice. Les cavaliers les connaissent très bien. Ceci permettra d'aider notre président bien-aimé, Jacques Lavergne, pour trouver la réponse. C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute et attends vos réponses au quiz de la semaine. À la réalisation, Yanis et Maeva qui nous accompagnent au cours de cette nouvelle saison.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Je vous fais découvrir aujourd'hui un nouveau chapitre du roman de Gilbert Noguès Superman ne volera plus aux éditions Kern. Il débute par le couplet d'une chanson de Maxime Le Forestier, Mon frère.
Que je n'ai jamais eu, sais-tu, si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble.
J'ai eu droit à tout, les draps s'en souviennent, comme elle me l'avait promis. J'en ai même redemandé. Après la partie de jambes en l'air, d'un bon pas, je me suis rendue au congélateur dans lequel Jojo se conservait. C'est là que j'ai pris conscience de la température extérieure. Ça caillait grave. Mon frère n'avait pas bougé d'un poil, et pour cause. Une fine couche de givre recouvrait son corps dénudé. J'étais frigorifiée, et la vision que me renvoyait cet être recroquevillé dans son caisson n'avait rien de réchauffant. J'avais la funeste impression de me regarder dans un miroir. C'est vrai que notre ressemblance était troublante et je comprenais que feu chaudron, cramé dans sa maison, et Pezuc, que nous allions très bientôt tiédir, avait pu se méprendre. Emmitouflé dans une accumulation de pulls, sous-pulls, enrubanné d'une large écharpe, encapuchonné sous un bonnet de laine, Consuelo m'avait rejoint sous la pantie. J'ai pensé qu'un peu de chauffage lui ferait plaisir. Elle a porté le petit soufflant de la salle d'eau. Je l'ai branché et coincé avec le capot du congélateur. La température est bien meilleure à l'intérieur de la maison de Consuelo. Spartacus ronfle et flatule régulièrement. Lampedusa s'est invitée et ronronne sur une serpillière près de l'antique rosière qui engloutit les réserves de cajots, de palettes et bois de toutes sortes que nous enfournons régulièrement. Une petite vie, de petits vieux. Une vie toute nouvelle pour moi, rendez-vous compte. Si quelques jours plus tôt, mon propre frère, même si je l'ignorais à ce moment-là, n'était venu s'aplatir près de moi après son vol, libre ou pas, où serais-je ? Réfrigéré sous une pile de pont ? Refroidi sous une pile de carton ? Mort de froid, pourquoi pas ? Combien de SDF, combien de miséreux clament ce dehors dès que l'hiver rigoureux apporte sa cargaison de neige, de gelée et de glace ? Une nouvelle vie pour moi. Je pense à ce frère que finalement je n'ai jamais eu. Nos jeunesses vite séparées. Moi, dans la soute et le cambouis d'un bateau, lui, le poing levé, rêvant d'un avenir radieux, sans Dieu ni maître. Moi, grelottant au sommet d'une plateforme pétrolière sous la pluie, en pleine mer. Lui, jouissant sans temps mort ni entrave, dans les bras de son amoureuse. Tout ça pour... À quoi tu penses ? Consuelo a levé le nez de son journal. Sur la table, deux tasses de chocolat au lait diffusent leur odeur subtile de cacao dans toute la pièce. Je tiens la mienne entre mes deux mains et je souffle de temps en temps sur la mousse. Un petit brouillard se crée sous mes yeux. À Jojo, je pensais à lui, à notre enfance. Il t'a manqué ? C'est pas. Tu vois, c'est parce que je le retrouve que je m'aperçois qu'il m'a manqué. Tu comprends ? Putain, parfois la vie est bien compliquée. On reste comme ça, les yeux dans les yeux, quelques secondes. Puis enfin, je porte ma tasse de chocolat à la bouche. Il est encore brûlant sur mes lèvres et je ressens tout le chemin du liquide de ma gorge à mon estomac. Ils en parlent dans la dèche. Consuelo me tend la page de la dépêche du midi, une petite manchette en une, renvoie un article en page locale. Les deux photos montrent les ruines encore fumantes de ce qu'il reste de la maison de Chaudron. Pas à dire, mais Gégé y a mis la bonne dose. Il ne reste pas grand-chose, un amoncellement de cendres et de morceaux de ferraille tordus et noircis. Le toit de la piscine s'est vaporisé et une machine à laver y flotte désespérément. Il ne fait aucun doute, les premières constatations policières l'attestent, que l'explosion de la résidence de l'ancien candidat nationaliste aux élections législatives est bien l'œuvre d'opposants, d'antifrontistes, probablement. Je lis à haute voix. Cet attentat n'est pas sans rappeler celui du 6 juin 1984, où la salle de la piscine municipale avait été détruite, empêchant par là même le candidat au présidentiel de l'époque, Jean-Marie Le Pen, de tenir un meeting. Continue, continue, tu vas rire. Étrange coïncidence, plusieurs croix gammées, taguées sur les murs extérieurs de la demeure, renvoient à celles peintes lors de l'attentat de 1984. Des croix gammées dessinées à l'envers, accompagnées du mot « scalp ». Tu vois, mon Gus, t'es aussi nul en dessin que le copain de l'époque. J'acquiesce d'un sourire. Je laisse tomber le journal de la démocratie et de la gauche radicale toulousaine et je replonge mes lèvres dans la mousse onctueuse de mon chocolat. Voilà, chers auditeurs, j'espère que la lecture de ce court chapitre vous aura donné envie de nous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez toutefois retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À très bientôt et prenez soin de vous.